France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Décidément, les initiatives en faveur de production d'énergie renouvelable sont légion dans le département de l'Isère. En 2016, nous avions rendu visite au créateur de la société agréée ESUS, autrement dit Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, Énergie Citoyenne, qui prévoyait de déployer le photovoltaïque depuis la métropole grenobloise. Mais figurez-vous que 5 ans plus tard, l'entreprise a obtenu l'approbation de 14 villes de la métropole. Elle exploite 20 centrales solaires et 4 réseaux de chaleur bois. Nous appelons Fabienne de suite. Et puis dans un deuxième temps, nous serons en Île-de-France avec Antoine, co-créateur de Champs Perchés, qui conçoit et exploite des fermes urbaines en bioponie, donc définition à venir tout à l'heure.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Fabienne Marès, bonjour.
Bonjour Philippe.
Fabienne, vice-présidente de Énergie Citoyenne, fondée en 2016. On vous avait eu au moment de cette fondation de cette société d'énergie citoyenne. 300 associés, une levée de fonds de près de 350 000 euros d'épargne. Vous avez investi plus d'un million d'euros sur le territoire. Dites-moi, Grenoble est devenue ville verte à cause de vous ?
Alors, un petit peu. On représente un petit morceau, effectivement, peut-être, de ce qui a mené à sa sélection. Mais alors, donc soyons bien clairs, hein, ce n'est pas que Grenoble, hein, puisque là, on parle de la métropole. Notre ouais. entreprise, elle a comme territoire la métropole grenobloise, donc 48 communes, dont Grenoble.
Ouais.
Et nos centrales, donc les 20 centrales solaires et les 4 réseaux de chaleur bois que nous avons installés, sont bien répartis, en fait, aujourd'hui sur le territoire.
Oui. Alors, on revend le produit de la production électrique ou on consomme directement ?
Non, c'est vraiment de la vente totale. Là, nous parlons de vente totale et notamment, par exemple, quand il s'agit d'écoles, parce qu'on a pas mal d'installations sur des écoles, on comprend évidemment que le maximum, en fait, d'ensoleillement va avoir lieu l'été et l'été, les écoles sont vides. Donc, effectivement, on est dans une optimisation, on va dire, de cette ressource solaire et donc de cette ressources électriques. Cette électricité revendue sera donc utilisée à ce moment-là par les voisins en fait, de ces écoles.
Vous parlez de levée de fonds. Quand on est une coopérative comme vous, on a déjà les coopérateurs qui, via leur cotisation, permettent d'amorcer la pompe.
Alors, on n'est pas vraiment une coopérative. Nous sommes une SAS à statut coopératif. À l'époque, quand on a créé Énergie Citoyenne, il n'y avait pas encore la possibilité, en fait, de créer des coopératives. Ça a changé depuis. Mais voilà, donc on a déjà des associés, mais notre objectif, bien sûr, c'est d'avoir toujours de plus en plus d'associés, de plus en plus de producteurs d'énergie renouvelable, en fait, sur notre territoire. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on sait que nous sommes déjà tous producteurs d'énergie fossile, par l'intermédiaire de nos comptes bancaires, puisque les banques françaises sont les championnes d'Europe de l'investissement dans les énergies fossiles. Et là, l'idée, c'est de bouger notre épargne et de la faire produire de l'énergie renouvelable sur le territoire. On a des enjeux en fait de croissance importants parce que nous sommes de plus en plus sollicités par de nouvelles communes tous les ans et également maintenant par des entreprises.
Je rappelle les faits parce que vous l'avez dit rapidement, vous êtes en train de dépasser le cap des 30% des villes de la métropole de Grenoble engagées avec vous, 15 villes sur 48. Pour une société citoyenne, c'est un travail de professionnel. Ça vous prend tout le temps de la journée de l'année.
Non. Alors on est une trentaine de bénévoles. Et donc certains ils passent une heure par semaine, d'autres vont y passer en fait une journée par semaine. Et on a en fait un bon réseau maintenant de villes qui communiquent également, c'est-à-dire qu'on utilise notre réseau. On fait aussi partie en fait d'un réseau national qui s'appelle Énergie Partagée.
Oui.
Donc toute la communication qui a lieu au niveau national nous permet aussi d'être visible. Les communes communiquent avec nous. Voilà. Donc on fait travailler en fait aussi tous nos actionnaires. Hein. Chaque actionnaire dès qu'il prend une part, il devient aussi un grand communicant pour Énergie Citoyenne parce qu'il peut en parler à ses amis, à sa famille et se féliciter en fait. De ce qu'il a fait faire à son épargne.
Vous avez démarré, écrivez-vous, en juin dernier, une réflexion sur votre rôle en tant que citoyen dans la maîtrise de l'énergie du territoire et dans la lutte contre la précarité énergétique. Concernant ce volet de la précarité énergétique, comment procédez-vous ?
Alors, ce que nous avons fait, en fait, grâce à certains bénévoles qui étaient prêts à s'engager sur ce volet, hein, qui depuis le début fait partie de nos statuts quand nous avons créé l'entreprise. Donc, depuis le printemps 2021, l'idée a été, en fait, de rencontrer les acteurs de la maîtrise de l'énergie et de la précarité énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique sur notre territoire et de les questionner. Que pouvons-nous faire pour vous ? Voilà, comment pouvons-nous vous aider ? Et donc, pour la précarité, par exemple, donc on a un acteur qui s'appelle Ulysse Énergie sur notre territoire et qui a du mal justement à entrer en contact avec les collectivités territoriales. Et nous avons des collectivités territoriales qui sont déjà associées d'énergie citoyenne. Donc, nous sommes partis avec notre bâton de pèlerin à la rencontre, en fait, au contact de ces collectivités pour leur faire connaître ces dispositifs. Qui ont du mal, en fait, vous savez, il existe tellement de dispositifs aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Que c'est une forêt, en fait, dans laquelle même les collectivités territoriales et les CCAS se perdent. Donc là, l'idée, c'est de recréer du lien en tant qu'habitants. Voilà, nous faisons réseau avec les communes qui nous ont suivis pour la production d'électricité ou la production de chaleur. Nous leur disons, est-ce que vous nous suivriez aussi pour, voilà, la découverte et une meilleure connaissance de ces outils pour lutter contre la précarité énergétique.
En vous écoutant, il n'y a pas que la SAS qui a de l'énergie, vous en avez aussi, hein, vous.
Exactement, on a beaucoup d'énergie et on a la chance, effectivement, d'avoir des bénévoles avec beaucoup d'énergie. On produit l'équivalent de la consommation, en fait, annuelle de 251 foyers en électricité, ouais. Alors que nous sommes 300 associés. Donc on voit, en fait, qu'on peut faire des choses à notre échelle.
En tout cas, merci de transmettre cette énergie à tout le monde. Merci Fabienne.
Eh bien, merci à vous de nous avoir reçus. À bientôt.
France Inter, carnet de campagne.
Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu de nouvelles des producteurs de spiruline en France, appelée dans des temps anciens algue bleue. Cette micro-algue est connue pour ses qualités nutritives. Jeanne dénonce dans un courrier Vincent, qui depuis sa ferme des Impinets en Isère est membre de la Fédération des spiruliniers de France. Créée en 2009 par une trentaine de pionniers, cette fédération est un réseau de producteurs et de productrices solidaires qui partagent les mêmes valeurs, l'entraide et le respect du vivant et de l'environnement. Volontairement portée vers la création d'une filière, la fédération travaille à l'amélioration des connaissances sur la spiruline et puis évidemment à sa valorisation avec des labels à la clé. Elle offre des conseils, des formations à ceux qui souhaitent se lancer dans cette production. Et ces programmes sont financés par l'Union européenne, dont la création d'un guide des bonnes pratiques d'hygiène pour la production de spiruline et le développement d'une marque collective certifiée. Alors pour en revenir à Vincent, ce producteur qui n'envisageait pas à l'origine cette voie professionnelle doit la découverte de la micro-algue nourricière à un voyage en Mauritanie. Convaincu de ses bienfaits, il va poursuivre une formation en France ou dans un CFPPA, un centre de formation professionnelle et de promotion agricole, en l'occurrence celui de hier, avant de repartir en Afrique pour développer cette culture. De retour en France, il s'installera sur le site de production isérois. Sur sa page Facebook, il cache pas son désarroi aussi face à la crise. Je le cite, si vous permettez, il faut se rendre compte que nous, les petits producteurs, les très petites entreprises qui fonctionnons essentiellement en vente directe, nous prenons de plein fouet cette situation. En le citant, nous témoignons évidemment de notre solidarité avec ces représentants de la culture paysanne. Son lieu de production a un site, c'est spirulib.com. Spirulib.com. Antoine Fuyet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Antoine, vous avez inventé une chose qui risque de germer, de prendre corps, de se diffuser. Vous l'avez appelé champ perché. Je signale que vous êtes ingénieur agronome et vous avez décidé de vous tourner, alors ça va être la première question, vers la bioponie, ce qui nécessite une définition.
Tout à fait. Donc j'ai créé champ perché, co-créé, parce qu'on est autant de membres que de fondateurs dans champ perché. Et donc on se base sur la bioponie, qui est un mélange entre l'hydroponie, donc la culture hors sol, et la culture biologique. Ce qui va permettre de réconcilier les deux mondes qui s'opposent dans l'agriculture, à savoir le côté productif et le côté qualitatif. Et donc, pour être plus concret, la bioponie, c'est un système hors sol où, sur le principe de la culture biologique, on va pas nourrir la plante, mais on va nourrir notre système de culture. On va mettre de la matière organique, et dans le système de culture, il y a des bactéries, des champignons, même des vers de terre qui vont dégrader cette matière organique et la rendre assimilable petit à petit pour les plantes. Donc, on va vraiment recréer un terroir bien à nous, mais en sous-sol.
Avec une particularité, c'est l'usage de l'eau.
Alors tout à fait, donc comme on est en système hors sol, en fait on va avoir les plantes qui sont en contact, notamment au niveau des racines, avec une solution circulante, fermée. Donc là c'est de l'eau et de la matière organique, et ça va permettre une économie d'eau substantielle. À savoir, on va utiliser autour de 3% de l'eau qui aurait été nécessaire pour les mêmes cultures si on avait été en plein champ.
Je suis allé voir champperché.com, c'est quand même édifiant, parce que ce que vous présentez, ce sont des cultures étagées sur un circuit d'eau. On a l'impression d'être dans un laboratoire et de suivre ou de vivre un film de science-fiction, et pourtant on est quand même avec une matière nourricière, vivante et naturelle.
Tout à fait, et c'est là un des gros enjeux, c'est que notre ferme, donc à Sartrouville, qui fait 1300 m², c'est un énorme laboratoire où on va expérimenter tous les paramètres idéaux pour les cultures, donc la température, les spectres lumineux, parce qu'on alimente en lumière avec des LED agricoles les cultures, mais aussi les solutions nutritives, tous les insectes qu'on va mettre en jeu, qu'ils soient bons ou mauvais pour les cultures. Et sans tout ce côté organique vivant, la gestion des insectes, de la matière organique pour nourrir le système qui nourrit lui-même les plantes, on l'incorpore dans un système qui est comme un laboratoire. Ça rend les choses plus compliquées parce que finalement on n'est pas une zone blanche comme un laboratoire à l'hôpital, parce qu'on fait venir des bactéries, des champignons, plein de vivants, et on essaie de recréer un écosystème vraiment complexe avec le but d'atteindre un équilibre stable.
Il y a un rôle social dans la ferme ?
Effectivement, on a un impact social, sociétal même, mais qui n'est pas directement notre cœur de métier. C'est plutôt une conséquence en fait de notre activité, parce que on a des statuts en accord avec les agréments ESU, donc on est une entreprise sociale et solidaire. Et vu qu'on a vocation à implanter l'agriculture dans les milieux urbains très denses, pour autonomiser un territoire en alimentation, forcément ça va demander des emplois.
Oui, alors la ferme bioponique à Sartrouville, 32 personnes employées, qui peut produire jusqu'à 30 tonnes d'aromates par an. Vous voyez comment l'avenir de Champperché ? Vous allez dupliquer le principe de ferme urbaine en bioponie dans d'autres villes ?
Alors, dans d'autres villes et dans d'autres pays, c'est notre mission. Là, on a déjà des sollicitations de pays directement qui nous contactent pour des raisons de sécurité alimentaire, qui veulent des systèmes Champperché pour pouvoir être autonomes à l'échelle d'un pays. Mais il y a aussi deux villes en France. Et très prochainement, on va ouvrir une troisième, une quatrième, une cinquième ferme en Île-de-France. Le but, là, avec la ferme qu'on a actuellement, je vous le disais tout à l'heure, c'est un laboratoire, c'est de faire énormément de tests sur les paramètres de culture pour chaque plante. Et pour l'instant, on se concentre sur la rentabilité avec les aromates, les salades, les micro-pousses et les produits transformés. Mais là, on est en train de commencer à faire des tests sur les fruits et légumes, que ce soit des melons, des tomates, des courges, des courgettes, des piments, des poivrons, etc. Le but, c'est de pouvoir nourrir une personne sans carence. Et ensuite, que là où on s'implante, on maille le territoire. Par exemple, si on veut s'implanter à Moscou ou à Lyon, on va regarder les producteurs locaux, regarder ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils ne produisent pas et donc qui est importé sur ce territoire, et nous, la ferme Champperché, produira ce qui est importé, pour qu'un territoire donné puisse devenir complètement autonome en nourriture. Vision, pour finir, de Champperché, du coup, c'est l'autonomie à l'échelle mondiale, mais avec toujours une vue locale, avec l'impact environnemental le plus faible possible et des prix accessibles à tous. Et ça, c'est quelque chose qui est la mission de Champperché, qu'elle prenne 5 ans, 10 ans ou 1000 ans. Moi, c'est mon but, c'est de toujours avoir cette vision-là et qu'on fasse en sorte que l'entreprise fasse toujours des choix avec cette vision comme ligne de mire.
Je vais vous dire, Antoine, je suis impressionné par Champperché. Allez voir le site champperché.com, Champperché Startup pour la page Facebook. Merci Antoine.
Merci beaucoup Philippe. Bonne journée, à très bientôt j'espère.
Un petit mot, dans les prochaines semaines, nous allons traverser la Savoie. On ira aussi du côté de la Bretagne, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine. N'hésitez pas à nous écrire si vous habitez dans ces départements, pour l'instant en Isère. Deuxième étape à Saint-Chef, le jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet.